Le mari, chapitre premier. Par un jour gris et glacial de mars, un vrai temps de ghetto hivernal, sa mère l'appelle pour lui dire que le mari disparu est arrivé. Elle n'entame pas la conversation de cette façon, bien sûr, mais sur un mode décontracté, comme débutent si souvent les histoires, celles de la vie quotidienne dans lesquelles fait soudain irruption une phrase du genre « L'autre jour on a sonné à la porte ». Alors que je n'attendais personne. Tamar est en train de déjeuner dans le cabinet de la 78e rue Ouest où elle reçoit ses patients. Mais à Tel Aviv, c'est déjà le soir. Sa mère vit toujours là-bas, dans l'appartement où Tamar et son frère ont grandi. Rue Tchernichovski, derrière le parc Ganmer, dont on aperçoit les arbres à travers les grandes fenêtres aux vitres sales.
Qui est-ce ?
Cria sa mère dans le récepteur. Mais quand elle pressa le bouton pour écouter, il n'y avait personne. Tamar pique un morceau d'ananas avec sa fourchette et s'installe pour écouter l'histoire, comme elle a toujours écouté les innombrables histoires de sa mère, souvent longues, généralement drôles ou absurdes, parfois des récits sans queue ni tête dont le seul but est de maintenir le lien entre Tamar et la vie lointaine de sa famille. Les yeux fixés sur un petit bout de ciel qui déverse de la neige fondue sur la ville depuis le début de la matinée, elle revoit la vieille porte de l'appartement familial en stratifié marron, pelé et écaillé en bas, ainsi que l'interphone en plastique couvert de marques de doigts noircies par l'encre du journal, et une douce chaleur l'envahit.
« J'ai cru que quelqu'un s'était trompé d'interphone, » lui raconte sa mère. « Ça arrive tout le temps. » Quand le bébé de l'étage au-dessus est né, on a pressé mon bouton aussi souvent qu'on aurait pressé la chasse de l'unique WC d'une gare routière bondée. Mais finalement, tout le monde est parti, et depuis tout est calme à l'exception des hurlements du bébé. « Les parents font de leur mieux, » dit sa mère, « mais quelquefois il leur arrive de se disputer. Ils étaient pourtant si heureux, si amoureux, avant, mais depuis la naissance du bébé, ils ne sont plus d'accord sur rien. »
« Ça me rappelle quelque chose, » dit Tamar, car le père de ses enfants et elle-même avaient cessé de s'entendre peu après la naissance de leur aîné, qui leur menait la vie dure, et avait malgré tout tenu 9 ou 10 ans avant de se séparer. Par la suite, Tamar et sa mère avaient vécu seuls, son père étant mort l'année précédente d'une crise cardiaque. Ils avaient été 4 dans la famille, sa mère, son père, son jeune frère et elle, et pendant longtemps, 3 d'entre eux avaient été mariés, seul son frère était resté célibataire. Puis le père était mort. Tamar avait divorcé et Shlomi avait épousé son petit ami, ce qui faisait maintenant de lui la seule personne pourvue d'un mari. Sa mère actionna l'interphone pour demander qui était là, mais quand elle lâcha le bouton pour écouter, il n'y eut que le bruit d'une voiture qui passait et celui de la ville, la nuit. Une nuit humide de bord de mer. Elle retourna remplir la bouilloire et la posa sur la cuisinière, mais une minute plus tard, l'interphone retentissait de nouveau. Cette fois, elle n'en fit aucun cas, mais l'appel se répéta de façon plus impatiente. Plusieurs petits coups rapides, suivis d'une longue sonnerie furieuse. « Voilà, voilà !» cria sa mère. « Qui est-ce ? » Et elle pressa de nouveau le bouton. « Services spéciaux !» dit un homme.
« Ah ! » pensa sa mère, « voilà comment ils s'introduisent maintenant pour violer les vieilles femmes. »«
Non, merci, » dit-elle à l'interphone, « je n'ai pas besoin de services spéciaux. »«
Services sociaux !» cria l'homme.
« Merci, mais non, »
fit-elle. « Quelle est la différence, de toute façon ?»«
Madame Paz, Ilana Paz, ici Ron Azrak, des services sociaux. »
« Pouvez-vous nous ouvrir, s'il vous plaît ?»«
Que voulez-vous ? » demanda sa mère. Mais ayant oublié de presser le bouton pour parler, elle continuait apparemment à écouter, si bien qu'elle entendit l'homme dire à voix basse
« Vous préférez peut-être lui parler vous-même ?»
Elle enfonça de nouveau le bouton. « Qui est avec vous ?»«
C'est justement ce dont je veux vous parler, » dit l'homme. Il avait une voix affable, explique sa mère à Tamar. Pas celle d'un assassin ni d'un violeur.
« C'est à quel sujet » demanda-t-elle.
« Madame Paz, Il vaudrait vraiment mieux pour tout le monde que nous montions vous parler en personne. Faites-moi un résumé, le coupa-t-elle. Services spéciaux répondit que le sujet était délicat et que si elle voulait bien leur ouvrir sa porte, il lui donnerait volontiers sa carte. La mère de Tamar eut envie de lui dire de s'en aller, mais la curiosité l'emporta et elle capitula. Toutefois, avant de lui ouvrir, elle éteignit la cuisinière. Tamar sait qu'elle ne quitterait jamais l'appartement avec le gaz allumé, fût-ce une minute, car une femme qu'elle connaissait depuis l'enfance était morte carbonisée dans ces conditions, grimpa l'escalier et frappa chez le couple au bébé. Le mari vint ouvrir avec un bavoir taché sur l'épaule. « Il a une mine épouvantable, » précise la mère de Tamar. « Depuis la naissance de l'enfant, son eczéma a repris. » « Excusez-moi de vous déranger, » dit-elle au jeune homme, « mais il y a quelqu'un en bas qui se prétend des services spéciaux. Au cas où je ferais entrer un gangster ou un voyou, ça ne vous ennuierait pas de garder votre porte ouverte et de tendre l'oreille ?»« Si notre gangster de bailleur, lui, acceptait d'installer une caméra de surveillance, rien de tout ça ne serait nécessaire, mais ce n'est pas demain la veille. « Excusez-moi encore de vous déranger, surtout avec le bébé. » Il est si mignon, c'est merveilleux de voir votre famille s'épanouir. Bon, alors, merci. Si ça ne vous ennuie pas, je vais le faire entrer. Non, non, pas besoin de descendre avec moi. Restez simplement où vous êtes, mais avec la porte ouverte juste comme ça, pour pouvoir m'entendre si je hurle. De retour chez elle, elle parla à nouveau dans l'interphone. D'accord, je vous ouvre. « Passez la première porte et attendez dans le hall jusqu'à ce qu'elle se ferme complètement derrière vous. Puis j'appuierai une seconde fois pour ouvrir la porte intérieure. »« C'est comme entrer dans la salle des coffres de la banque, le mi, » dit l'homme. « Sauf qu'il n'y a pas d'argent ici, » répondit sa mère pour tuer l'idée dans l'œuf. Elle attendit, l'œil collé au judas, jusqu'à ce qu'apparaissent deux vagues silhouettes, un homme de grande taille muni d'un porte-document, et un petit vieux coiffé d'un chapeau. Le grand sortit un mouchoir. Tamar les imagine, le petit avec son chapeau de feutre marron, et le grand, le front luisant de sueur, un front haut et dégarni, l'année prochaine il sera chauve, mais avec une jolie barbe noire frisée et de fines lunettes. Elle voit sa mère entr'ouvrant la porte sans défaire la chaîne qu'elle-même lui a installée il y a 4 ou 5 ans, juste avant de repartir pour New York et de faire poser à son tour une alarme dans sa maison, puisqu'elle aussi, depuis peu, vit seule. Services sociaux glissa sa carte de visite professionnelle par l'entrebâillement de la porte. « Merci. Excusez le dérangement. Ron Azrak, pouvons-nous entrer ?»« Azrak ? Quel genre de nom est-ce ? » Il sourit. « Il avait un visage agréable, » lui dit sa mère. Et un regard très chaleureux. « Turc, mon grand-père est né à Istanbul. »« Ah, oui ? J'ai toujours eu envie d'aller en Turquie. »« Vous en avez encore le temps, » répondit Services sociaux avec une étincelle dans les yeux, sachant exactement quel mot choisir pour rasséréner une vieille femme. « Quelque part, » dit-elle, « une maman est fière d'avoir élevé un fils comme lui, si poli et prévenant. » Alors quelle importance, il n'a aucune mention de doctorat après son nom. Par bonté d'âme et par sens du devoir envers ses concitoyens, il a choisi de travailler aux services spéciaux, travail ingrat entre tous. « Services sociaux, plutôt, » corrige Tamar tout en lançant le reste de son déjeuner dans la poubelle et en jetant un regard à la pendule, encore 20 minutes avant son prochain patient. « Oui, c'est ça, » dit sa mère. « Le Bosphore !» avait-elle sans doute dit à Services sociaux, faisant étalage de connaissances acquises au cours d'innombrables émissions de télévision de fin de soirée. « S'il existe un plus joli nom de fleuve au monde, je ne le connais pas. » Quand on pense qu'il divise 2 continents, avait-elle dû ajouter, car sa mère, elle aussi, savait ouvrir le robinet du charme quand elle le voulait. « J'aimerais vous expliquer pourquoi je suis ici, Ilana, » reprit Services sociaux. « Je pense que vous devriez vous asseoir. Vous allez peut-être recevoir un choc. » Il la conduisit jusqu'au canapé. « Elle ne l'avait pas vraiment invitée à entrer, » dit sa mère à Tamar. « Donnez-leur un doigt ils vous prennent le bras.
Je ne m'attendais pas à ce que vous le reconnaissiez tout de suite. Ça fait si longtemps.
Services sociaux jeta un coup d'œil vers la porte, et sa mère aperçut de nouveau le petit vieux au chapeau et au costume sombre, debout, silencieux, dans l'entrée.
« Nous l'avons retrouvé il y a seulement quelques jours, » dit Services sociaux.
« Il n'est pas encore tout à fait dans son assiette. Vous le reconnaissez ?»«
J'ai cru qu'il était votre acolyte, » répondit sa mère en se tortillant avec gêne sur le canapé et en essayant de se rappeler si elle devait de l'argent à quelqu'un.
Services sociaux se mit à rire, découvrant ses grandes dents turques.
« Bon, » fit-il, soudain sérieux. « Puisque vous m'avez posé des questions sur ma famille, me permettez-vous de vous raconter une petite histoire ?»
Regardant la pendule, sa mère fut consternée de voir qu'il n'était pas encore 20h30. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas endormie avant minuit. « Mais j'ai pensé, la télévision peut attendre, » dit-elle à Tamar. « Qui suis-je pour jeter dehors une si courtoise Scheherazade ?»«
Allons, d'accord. » fit-elle, essayant d'oublier le petit vieux que quelqu'un avait répandu devant sa porte comme une flaque d'eau.
Services sociaux sortit son mouchoir de sa poche et recommença à s'éponger le front.
« Voulez-vous que j'ouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air ?» demanda la mère de Tamar.
« Pourquoi pas ?»«
Parce que quelqu'un armé d'un couteau pourrait bien pénétrer par là. »«
Quoi ?»«
Un peu d'air me ferait beaucoup de bien à moi aussi, mais je vis seule. » « Monsieur Azrak, ma fille vit à New York et mon fils est une longue histoire.
Appelez-moi Ron. »«
Je vis seule, Ron, et je ne suis plus très jeune, comme vous pouvez le voir, alors je dois me méfier. »
Tamar imagine la brise tiède entrant dans la pièce et apportant le bruit d'un vélomoteur et d'un couple qui passe sous les fenêtres en se disputant, tandis que Services sociaux fait signe au petit vieux toujours debout à la porte, lequel, sans ôter son chapeau, entre à pas lents, s'arrête à quelques centimètres de sa mère et, avec une expression calme, impénétrable, examine ses cheveux teints cuivrés, son visage large aux joues parsemées de taches de rousseur, encore étonnamment lisse, ses yeux bruns au regard vif et son t-shirt qui dit « Ayez confiance, je suis médecin ».
Tamar imagine sa mère regrettant aussitôt de ne pas porter quelque chose qui aurait peut-être fait meilleure impression, parce qu'il y a bien longtemps que quelqu'un ne l'a pas regardée avec une telle attention, puis désignant un fauteuil du doigt en tentant de faire abstraction des picotements qu'elle sent dans sa nuque.
Le vieux ôte son chapeau, le tient contre sa poitrine et va s'asseoir près de la fenêtre ouverte, le dos bien droit comme s'il attendait le décollage de l'avion pour s'adosser à son siège. Sa mère remet la bouilloire sur le feu, et lorsqu'elle revient, Services sociaux est en train, lui aussi, de la regarder avec curiosité à travers ses lunettes cerclées d'argent. Depuis quand est-elle devenue aussi intéressante aux yeux de tous?
Puis, continue sa mère, Services sociaux se lance dans une histoire sur ses grands-parents.
Pas les Turcs. Ceux de l'autre côté, les parents de sa mère, originaires de Salonique.
Une famille internationale, dit Tamar.
Mais tous du même coin. Lorsque son père avait rencontré sa mère, dit-il, il avait été ravi d'apprendre qu'elle savait préparer tous ses plats préférés.
Tamar s'attend à ce que sa mère, libérée des corvées de cuisine depuis la mort de son mari, lâche à ce propos une remarque caustique, mais non. Elle rapporte plutôt l'histoire que lui a racontée Services sociaux sur la façon dont ses grands-parents se rencontrèrent, adolescents, à Salonique, même s'il fallut du temps à son grand-père pour se faire aimer de sa grand-mère. Ils se marièrent enfin en 1939 et emménagèrent dans un petit appartement à l'extérieur des vieux murs de la cité, et son grand-père commença à travailler à la mercerie qui était dans la famille de sa grand-mère depuis 200 ans. En l'entendant parler, la mère de Tamar humait presque l'odeur de la mer Égée, clapotant dans le vieux port et celle du carburant des navires. Elle entendait les tourterelles roucouler dans la rue tranquille où habitait le jeune couple. Derrière elle, la flaque brune écoutait aussi.
Il n'y avait aucun bruit dans la pièce.
Même la rue Tchernichovski était silencieuse tandis que les bombes de Mussolini tombaient sur Salonique. Mais elle n'arrivait pas à se détendre avec ses yeux posés sur sa nuque. Mes grands-parents ont été séparés pendant la guerre, dit Services sociaux. Chacun est parvenu à gagner Israël. Chacun s'est entendu dire que l'autre était mort et aucun des deux n'a supporté l'idée de rentrer à Salonique où 50 000 personnes avaient été déportées, dont pratiquement aucune n'avait survécu. Or, voilà qu'un jour, 2 semaines avant le remariage prévu de ma grand-mère avec un homme plus âgé, lui aussi veuf de guerre, mon grand-père aperçoit celle-ci à travers la vitre d'un bus qui passait devant lui dans Allenby Street. Il y eut un instant de silence dans la pièce. « Ça alors !» fit enfin la mère de Tamar. « Quelle histoire extraordinaire !»« Mais maintenant, j'aimerais vraiment savoir pourquoi vous êtes ici. Les services sociaux ont sûrement mieux à faire que d'envoyer des conteurs rendre visite à des vieilles dames. »« Oui, bien sûr » dit-il avec un petit rire. « Je vous ai seulement raconté cette histoire parce que ça arrive plus souvent que l'on ne pense. Les disparus réapparaissent. Les couples... Les frères et sœurs sont réunis et, bon, comme vous le verrez, mais vous n'avez pas encore deviné? Bien sûr, votre réaction est naturelle et nous pouvons procéder aussi lentement que vous le désirerez.
Procéder à quoi? Demanda sa mère qui commençait réellement à s'énerver, dit-elle à Tamar. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Voulez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer exactement pourquoi vous êtes ici? Alors, Ron Azrak se leva, lissa le pli de son pantalon kaki, s'éclaircit la voix, s'approcha d'elle et, avec un sourire doux, posa sa main sur son bras. « Vous voyez ? » dit-il en désignant le vieillard rabougri assis près de la fenêtre. « Nous avons fini par le retrouver. »« Qui ? » demanda sa mère en dégageant son bras et en se tapotant le crâne à la recherche de ses lunettes de lecture. « Vous avez dû perdre espoir. »« Espoir ? De quoi ? » demanda-t-elle sans tenter de cacher son irritation grandissante. « Votre mari » chuchota-t-il, clignant légèrement les yeux comme pour se protéger d'un possible accès de violence. « Mon mari ? » hurla-t-elle presque. « Quoi, mon mari ?» question à laquelle Services sociaux, probablement habitué à la frustration suscitée par les méthodes de son agence, répondit. « Le voici. » Un grand rire jaillit de la bouche de Tamar quand sa mère prononce cette phrase. Sa mère avait ri, elle aussi, lui dit-elle. Si fort qu'on eût pu croire à un cri, car soudain le mari, pas celui assis près de la fenêtre ni celui qui était mort depuis 5 ans, mais celui de l'étage du dessus, entra en trombe, tenant dans ses bras le bébé au visage rouge et grimaçant. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » tonna-t-il, regardant tour à tour le Turc aux cheveux bouclés, le vieillard et la mère de Tamar. Celle-ci tenta d'expliquer la situation, mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour parler, elle s'écroulait à nouveau de rire. Le bébé fendit l'air du poing et poussa un cri perçant. Le mari de l'étage du dessus secoua légèrement la petite et, comme cela ne marchait pas, il commença à sauter d'un pied sur l'autre, attendant toujours de savoir si l'on avait besoin de lui. « Ça va !» parvint enfin à dire sa mère en se tamponnant les yeux avec un kleenex froissé sorti de sa poche. « Il y a eu un malentendu, c'est tout. Cet homme m'a confondu avec quelqu'un d'autre. » En entendant cela, Services sociaux ne broncha pas, se contentant d'esquisser son affable sourire officiel. « Je vous assure que nous ne vous avons confondu avec personne. »« Mais que si, monsieur Azrak, » rétorqua sa mère. « Ron, » insista-t-il. « Je suis désolée que vous ayez perdu votre temps avec moi, » dit sa mère. « Mais mon mari n'a pas du tout disparu. Je sais exactement où il est. Il est enterré au cimetière Yarkon, à côté de sa mère. » Le mari de l'étage du dessus regarda avec de grands yeux la mère de Tamar, puis Services sociaux, qui s'essuya les mains sur son pantalon, fit sauter les serrures de cuivre de son porte-document et en sortit un épais dossier. Pendant toute la scène, le vieillard était resté assis sans rien dire, frottant son pouce contre son index, comme pour mimer le geste universel synonyme d'argent. Dans le peu de temps qu'il avait été là, observa la mère de Tamar, il semblait s'être imperceptiblement ratatiné. À ce moment-là, dans la cuisine, la bouilloire émit un sifflement strident. Services sociaux se tourna avec espoir vers le mari de l'étage du dessus qui leva les sourcils comme pour dire « Moi ?» et chercha désespérément un endroit où poser le malheureux bébé. Alors le vieillard assis près de la fenêtre ouvrit grand les bras comme pour accueillir l'enfant, si bien que le mari, totalement surpris par ce geste et, à vrai dire, par toute la scène, le lui tendit et se précipita pour s'occuper de la bouilloire hurlante. Dès que le vieillard se mit à faire sauter la petite sur ses genoux, celle-ci se calma et ses yeux s'agrandirent, émerveillés. Les lèvres de l'homme s'ouvrirent et, un instant plus tard, quand la bouilloire se tut elle aussi, le seul bruit dans l'appartement fut le premier son qui sortait de la bouche du mari, un chant doux, sans parole. « Lila, li, lila, lila, la, la, li. » Et là, sa mère s'arrête dans son histoire parce que l'interphone, celui de Tamar, cette fois, retentit et elle demande à sa mère de ne pas quitter pendant qu'elle soulève le récepteur pour demander qui est là et presse le bouton permettant à son patient d'entrer dans le hall. Alors qu'elle jongle avec les écouteurs de son mobile et le vieux récepteur relié à l'interphone du cabinet, elle est presque sûre d'entendre sa mère annoncer discrètement « Le poulet sera prêt dans 20 minutes. »« Quoi ?» demande Tamar. « Rien, » répond sa mère. Elle dit à sa mère qu'elle la rappellera.
Chapitre 2. Mais elle parle à sa mère seulement le lendemain parce que celle-ci ne répond pas quand Tamar essaie de l'appeler depuis le train en rentrant à Riverdale. C'est surprenant, car sa mère décroche toujours. Il est déjà minuit à Tel Aviv, mais elle ne se couche jamais plus tôt, ce qui fait que le décalage horaire ne les empêche pas du tout de garder le contact. Depuis 19 ans que Tamar vit à New York, elle s'est habituée à ses conversations de fin d'après-midi, fin de soirée, 3, voire 4 fois par semaine, pendant lesquelles elle retenait généralement au moins 85% de l'attention maternelle, le reste demeurant disponible pour les merveilles et les drames diffusés à la télé. Il arrivait à sa mère d'interrompre la conversation pour partager avec Tamar un détail incroyable sur les tigres du Bengale ou sur l'Alhambra, pour l'informer de la lutte quotidienne des enfants des bidonvilles de Beyrouth ou lui apprendre l'existence d'une île grecque où les gens vivent plus longtemps que partout ailleurs dans le monde. Si ces conversations faisaient du bien à Tamar, c'était parce qu'elle la ramenait à son enfance, aux heures bénies passées en présence de sa mère pendant que son frère sommeillait, se délectant de son attention, à peine entamée, semblait-il, par la pile de devoirs de cours élémentaires que celle-ci corrigeait au crayon rouge sur ses genoux. Comme sa mère ne décroche pas, Tamar appelle Shlomi. Elle n'est pas inquiète, pas vraiment. Mais comme l'inquiétude a toujours été l'expression de l'amour dans la famille, il est rare que quelqu'un laisse passer une occasion de la manifester. De quatre, quand ils étaient encore quatre, seul Shlomi n'était pas totalement prisonnier de cette habitude. Sans doute parce que leurs parents avaient passé tant d'années à s'inquiéter à son sujet qu'il y était devenu allergique. Shlomi est un noctambule comme leur mère, mais depuis sa rencontre avec Dan, on le trouve chez lui à minuit. Ces 20 et quelques dernières années, il a toujours été dehors de 21 heures à 2 ou 3 heures du matin, encore qu'il fût impossible de savoir à quoi correspondaient ces heures pour lui, car son métier de DJ l'emmenait aux quatre coins du monde. Maintenant qu'il s'est assagi et marié, il voyage beaucoup moins et, bientôt, une fois que la mère porteuse de leur bébé aura accouché au Népal, il ne se déplacera plus du tout. Seulement, les rythmes circadiens de Shlomi, fixés depuis l'adolescence ou peut-être même bien avant, lui viennent du lait maternel et sont immuables, ce qui fait qu'il ne décroche qu'après 2 sonneries et appelle sa sœur par le diminutif qui date de leur petite enfance. « Quoi de neuf, Tâche ?» Elle se lance illico dans l'histoire de leur mère, mais il l'interrompt en disant qu'il est au courant et que ce type, le mari, a l'air tout à fait bien, très distingué, sans parler du fait qu'il est merveilleux avec les enfants. C'est alors qu'elle est pour la première fois frappée de stupéfaction. Une stupéfaction mêlée d'irritation. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu es au courant ?» demande-t-elle. « Il est resté ? Le mari ?
C'est comme ça que tu appelles un inconnu que les services sociaux ont ramassé Dieu sait où, au fond d'une poubelle si ça se trouve.
À Netanya, en réalité, dit Shlomi.
Mais elle ne l'écoute pas et poursuit.
Le mari ?
Et maman ? Elle m'a tenue au téléphone une demi-heure sans même parler du fait qu'elle a laissé entrer dans sa vie un homme qu'un individu qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam a fait monter chez elle en lui disant qu'il lui appartenait. La façon dont elle m'a raconté la scène m'a donné l'impression qu'elle trouvait toute cette histoire complètement folle.
À quoi son frère répond : peut-être qu'elle était gênée de te dire la vérité.
Tamar reçoit cela comme une gifle. La phrase est dénuée de méchanceté. Ce n'est pas le genre de Shlomi, mais parce qu'il ignore tout de l'inquiétude, il a le génie du franc-parler.
« Pourquoi serait-elle gênée ? » demande-t-elle,
toujours piquée au vif.
Elle croit entendre son frère hausser les épaules à l'autre bout du fil.
« Parce qu'elle savait que tu réagirais comme ça.
Comment ?
Que tu prendrais la mouche, que tu serais soupçonneuse.
Un peu sur la défensive même. »«
Sur la défensive ? »
Pourquoi est-ce que je serais sur la défensive ?
Ma réaction en apprenant qu'on lui a présenté un inconnu comme son mari disparu, alors qu'on sait tous qu'elle n'a jamais eu d'autre mari que papa, me semble la seule réaction raisonnable ici. Qu'est-ce qui lui a pris de le recueillir comme ça, ce parfait inconnu ?
C'est peut-être justement pour ça.
Pourquoi ?
Parce qu'il a l'air parfait.
Mais on ne sait rien de lui, Shlomi. Ça pourrait être un psychopathe.
Ou, au minimum, un arnaqueur.
Elle en sait peut-être suffisamment.
Est-ce qu'il parle hébreu, au moins ?
Tamar avait l'impression qu'on l'avait trouvé très loin de tout, peut-être même en mer. Une image lui vient du vieillard au chapeau marron accroché à un morceau de planche ballotté par les vagues. L'espace d'un instant, elle a presque pitié de lui. Mais juste un instant parce que, franchement, il se prend pour qui ? Il est là. Approuvant l'idée folle des services sociaux ou l'inventant peut-être lui-même de toutes pièces, assis dans son joli costume sur le fauteuil de sa mère, image même de l'innocence, ouvrant des bras accueillants au bébé.
« Il le parle en poète, » répond Shlomi, « comme s'il sortait tout droit d'un poème d'Alterman, comme ceux que maman nous lisait quand on était petit. »
« Le voilà maintenant qui sort des poèmes d'Alterman. »
Et c'est aussi une espèce de génie des maths, ajoute Shlomi. Il a travaillé avec Erdos en personne. Le type a un nombre d'Erdos égal à 1.
Mais qui est Erdos, bon sang ?
Demande Tamar.
Seulement, Shlomi est obligé de raccrocher parce que, incroyable mais vrai, Dan a enfin réussi à joindre le Népal.
Chapitre 3. Cette nuit-là, Tamar dort mal. C'est vendredi. Sa fille Iris est de sortie avec des copains et, ces nuits-là, Rémi, qui n'a que 10 ans, aime dormir dans le lit de sa mère. Elle ne s'endort jamais avant le retour d'Iris à la maison, et même si elle apprécie la douce présence de Rémi, il respire par la bouche et ses jambes maigres et chaudes n'arrêtent pas de bouger sous les draps. Pourtant, même une fois Iris, qui ne sent ni l'alcool, ni la cigarette, ni l'herbe, allongée dans son lit sous son plafond aux étoiles autocollantes phosphorescentes, et Rémi, enfin calme, plongé dans l'abîme du sommeil, Tamar reste éveillée et pense au mari. Ce qui la tourmente finalement, c'est la crainte que sa mère ne se fasse exploiter. Aussi énergique et assurée qu'elle soit, elle n'en est pas moins une vieille femme de 73 ans vivant seule, qui a besoin de son fils chaque fois qu'elle a un problème d'entretien dans son appartement et de sa fille pour mettre de l'ordre dans ses relevés de compte bancaire. Elle est en bonne santé, Dieu merci, mais même si son esprit est toujours vif, elle a de plus en plus tendance à oublier. Elle continue d'enseigner l'hébreu 2 fois par semaine à des immigrants soudanais, mais, par 2 fois le mois dernier, elle a égaré son téléphone et a dû demander à Shlomi de revenir avec elle sur sa journée pour, heureusement, arriver à le localiser 2 fois, la première au comptoir de la pharmacie Superpharm et la seconde à la piscine Gordon où elle va nager 2 fois par semaine et où les maîtres nageurs la connaissent. Après cela,
Tamar a commencé à remarquer d'autres trous de mémoire. Elle a appelé son amie Cathy, une neuroscientifique, laquelle lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y avait aucune raison de croire à un début d'Alzheimer. C'était simplement que le messager du cortex préfrontal envoyé à l'hippocampe devenait un peu plus lent, qu'il se fatiguait. Ce n'était pas sa mémoire qui s'érodait. Elle était encore bel et bien là. Mais avec le vieillissement du cerveau, le messager envoyé pour récupérer un souvenir devient faible et paresseux et se perd parfois en chemin. En d'autres termes, sa mère vieillit. Cela, Tamar s'en est déjà parfaitement rendu compte. Le jour où son père, brusquement terrassé au supermarché par une terrible douleur dans la poitrine, est mort en moins d'une heure à l'hôpital avant même l'arrivée de Tamar ou de Shlomi, elle a d'un seul coup perçu la fragilité de ses parents, elle a compris qu'ils avaient atteint le point où la mort se tiendrait désormais en embuscade. Sa mère n'est pas idiote, elle n'est pas fragile non plus. Mais elle vieillit et chacun sait combien il est aisé d'agresser les vieilles personnes. N'incombe-t-il pas à Shlomi et à elle de s'assurer que leur mère n'est pas en train de se faire exploiter? Un, à vrai dire deux inconnus débarquent à sa porte sans prévenir et prétendent avoir retrouvé un mari que leur mère n'a jamais perdu. Ils prétendent que quelqu'un qui ne lui a jamais appartenu lui appartient, au niveau le plus intime, avec toutes les responsabilités non seulement affectives mais financières que cela implique.
Israël est-il devenu si détraqué, si corrompu, se demande Tamar, si furieusement chutzpahique, note, de chutzpah, mot yiddish signifiant manque de respect, insolence.
Fin de note.
Que, n'ayant jamais mis de côté les ressources nécessaires pour aider ceux dans l'intérêt desquels il a été fondé afin de leur offrir un asile, les disparus et les dépossédés, et que, ayant, au lieu de cela, englouti l'ensemble de ses recettes dans la défense et dans le goût du premier ministre pour les cigares, le champagne rosé et les bijoux, un cinglé du gouvernement, le clown en chef chargé de la santé publique, a concocté un plan extravagant consistant à livrer chez des gens innocents ces pauvres vieux laissés à l'abandon, en affirmant qu'ils leur appartenaient et étaient donc sous leur responsabilité. Ne verra-t-on donc jamais la fin ? Se dit-elle, roulant lourdement pour la énième fois du dos sur le ventre tandis que Rémi respire bruyamment à côté d'elle. N'en finira-t-on donc jamais d'user et d'abuser de l'Holocauste ? Ils sont là, à improviser sur une corde émotionnelle profonde de l'histoire du pays, à jouer sur les émouvants récits avec lesquels a grandi la génération de sa mère, trop rarement réels mais maintes fois entendus, de pères et d'époux, d'épouses et de sœurs disparues pendant la guerre et présumées morts, mais miraculeusement repêchés par la Croix-Rouge et réunis avec leurs êtres chers. Seuls rescapés parmi les disparus et les morts de quelque épouvantable camp de personnes déplacées, entassés sur un bateau à destination de Haïfa et, dans une poignante cérémonie célébrant l'impossible devenu possible, l'irréel devenu réel, ce qui, après tout, serait inéluctablement la marque, la spécialité de ce pays sur le point de naître, livrés dans les bras de ceux qui les ont perdus et qui ne se les réapproprièrent sans doute jamais. Et voilà que les services sociaux, ou spéciaux, quel que soit le nom qu'ils se donnent, se vantent aujourd'hui, 70 ans après, de rendre, sous forme de petits vieillards au chapeau disgracieux, tout l'amour perdu. Et, comble de l'hypocrisie, au moment même où ils envoient leurs agents avec la mission d'imposer à d'autres gens ces vieux juifs que personne n'est jamais venu réclamer, ils envoient la police ramasser les Soudanais dans le quartier de Florentine en vue de les déporter et arracher à leur famille des petits Philippins nés en Israël dont la langue maternelle est l'hébreu et qui ont grandi en chantant « Atikva » note « L'espérance » titre de l'hymne national d'Israël.
Fin de note.
Pour les jeter en prison avant de les expulser définitivement du pays où ils ont grandi. À quel imbécile pense-t-il avoir affaire ? Elle saute du lit et enfile sa robe de chambre, celle en chenille ouatinée que les enfants lui ont offerte quelques années plus tôt pour son anniversaire, aussi confortable que peu séante, débranche d'un coup sec son téléphone et entre d'un pas décidé dans la cuisine. Si Shlomi n'a aucune intention d'agir,
S'ils se contentent de rester les bras croisés pendant que leur mère se fait arnaquer par ce personnage dont l'agence soutient l'impudence, c'est elle qui prendra les choses en main.
Elle appelle sa mère. Il est déjà 8h30 en Israël et soit elle s'apprête à partir à la piscine, soit elle se prépare pour son cours. Pourtant, quand celle-ci répond au bout de 4 ou 5 sonneries, elle entend une clameur, des enfants qui braillent et, l'instant d'après, une voix tonitruante qui met quelqu'un en garde contre le courant de retour de l'autre côté des cordes de sécurité.
« Attends !» crie sa mère. « Je ne t'entends pas !»«
Où es-tu ? » demande Tamar, parce qu'elle discerne des bruits de plage. Or, sa mère déteste la plage. Elle se plaint toujours que la mer est sale et estime que les cafés bondés du bord de mer sont des repères de voleurs. À l'une des rares occasions, se rappelle Tamar, où sa mère a accepté de les emmener à la plage, Shlomi et elle, quand ils étaient petits, Shlomi s'est fait piquer par une méduse, ce qui n'a fait que renforcer la mauvaise opinion qu'elle avait de l'endroit en question. Elle préfère contempler la mer tranquillement depuis la promenade qu'elle longe pendant ses allers-retours à la piscine 2 ou 3 fois par semaine, et elle est l'une des rares personnes habitant la ville qui lui ont plus ou moins tourné le dos.
« Je ne t'entends pas !» répète sa mère. « Je suis à la plage. »«
Qu'est-ce que tu fais là-bas ? » ?
« On prend le café. »
« Tu veux dire « lui et toi »?»«
Lui qui ?»«
Le mari ?»
Sa mère ne répond rien.
« J'ai parlé à Shlomi, maman.
Je riais au téléphone quand tu me racontais ton histoire, mais tu as bien pris ton temps pour arriver à la chute de la blague. »«
Quelle blague ?»«
Qu'il est resté. Que tu as reçu un petit vieux dont quelqu'un a dit qu'il était ton mari dans ton appartement, dans... »
Là, Tamar s'interrompt, car, pour la première fois, l'idée lui vient que sa mère a peut-être fait plus que l'inviter à s'asseoir sur le fauteuil près de la fenêtre, qu'elle l'a peut-être accueilli dans son lit.
Celle-ci se met à rire.
« Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? » demande Tamar.
« Il n'est pas si petit que ça, » répond sa mère.
Puis Tamar l'entend dire au mari.
« C'est seulement Tamar, ma fille Tamar. »
« Il faut qu'on parle, maman. Je ne comprends pas pourquoi tu marches dans cette histoire. Je suis inquiète. »
« À propos de quoi ? » ?»«
Je prends un café sur la plage, c'est tout. »
« Écoute, je te rappelle plus tard.
Et toi, que fais-tu debout au milieu de la nuit ? Iris est encore rentrée tard ? Tu paies finalement pour tous les soirs où tu as traîné dehors quand tu avais son âge. Mais c'est bien pour elle. Laisse-la s'amuser. Regarde comme tu es devenue sérieuse, finalement. »
Et sur cette note différente, plus légère, sa mère raccroche. La rumeur des vagues se tait et Tamar retrouve le silence de sa cuisine, dans la rue de banlieue où elle a vécu ses 12 dernières années, depuis qu'Iris a 3 ans.
« Pas si petit que ça, » répète-t-elle.
Mais tout ce qui lui répond, c'est le bourdonnement du Sub-Zero. Note, grande marque de réfrigérateur réputée pour leur silence.
Fin de note.
Un bruit qu'on n'entend que lorsqu'on est seul. Les jours suivants, Tamar apprend de Shlomi que le mari n'a pas encore emménagé chez leur mère, mais qu'il passe beaucoup de temps avec elle. Il est originaire de Hongrie. Son hébreu n'est finalement pas aussi riche que celui d'Alterman. Il ne connaît qu'un ou deux de ses poèmes par cœur, qu'il récite quand son hébreu le trahit. Cependant, leur mère est habituée à l'hébreu hésitant des immigrants et c'est une excellente enseignante. Le mari met déjà ses corrections à profit.
Pourquoi il a disparu aussi longtemps ? Pourquoi il a été retrouvé si tardivement ? Tout cela reste flou. Ni Shlomi ni sa mère ne sont capables de lui fournir une véritable explication. On l'avait fait sortir de Hongrie il y a quelques années, 2, 3, 5 peut-être, ou bien il en était sorti lui-même, et il vivait depuis à Netanya où il passait son temps à jouer aux cartes au club hongrois, jusqu'au jour où quelqu'un l'avait identifié ou qu'il s'était présenté comme le mari disparu. Ni Shlomi ni la mère de Tamar ne semblent se soucier que la chronologie ne colle pas. Il n'était qu'un enfant pendant la guerre. Il ne pouvait donc pas être marié, sans parler du fait que leur mère n'a aucun lien avec la Hongrie, qu'elle n'y a même jamais mis les pieds. Pendant que le mari était coincé derrière le rideau de fer,
la mère de Tamar devenait une femme à Jérusalem, étudiait à l'université hébraïque, rencontrait son père, se mariait, déménageait à Tel Aviv, tombait enceinte d'elle et, 4 ans plus tard, de Shlomi. Pourquoi, se demande Tamar, lorsque le rideau s'est finalement ouvert et a laissé filtrer une brève lueur de démocratie, le mari n'a-t-il pas fait en sorte qu'on puisse le retrouver? Pourquoi n'est-ce que récemment, quand le gouvernement hongrois a viré à l'extrême droite, affirmant de plus en plus franchement sa xénophobie et son apologie étatique des collaborateurs nazis, que la brève lueur de démocratie s'éteignait au profit de l'autocratie, que le mari, sans famille, dont les voisins, dans la petite ville où ils vivaient, devenaient eux aussi plus arrogants dans leur antisémitisme, qu'il a commencé à entrevoir la possibilité de lever la main, de hisser le drapeau blanc des disparus désireux d'être retrouvés? N'y a-t-il pas une prescription sur le droit de déclarer que quelqu'un a disparu? Et que diable sa mère a-t-elle à voir là-dedans? Pendant un court moment, Tamar conçoit même l'idée que sa mère détient un secret qu'elle a gardé caché au reste de la famille. Elle a toujours été là pour eux, a toujours accordé à Tamar, à Shlomi et à leur père assez d'elle-même pour qu'ils se sentent les seuls dépositaires de son attention. Quand Iris est née, débordant d'exigences, Tamar s'est demandé comment sa mère réalisait l'exploit de leur donner le sentiment d'être vue et entendue, observée et aimée, tout en sauvegardant quelque chose, une petite partie d'elle-même, pour un ailleurs. Tamar, elle, ne sait pas faire. Elle donne ou trop ou pas assez, elle se sent soit dépassée, soit égoïste. Elle a attendu d'avoir terminé sa recherche universitaire et constitué sa clientèle avant de donner naissance à Iris. David, lui, voulait des enfants dès le départ, mais elle a insisté pour prendre son temps. Lorsqu'elle a finalement accepté d'être enceinte et qu'Iris est arrivée, celle-ci était affligée de coliques et pleurait continuellement. Tamar dépensait jusqu'à la dernière once d'énergie pour la calmer, si bien que dès le premier instant, son seul choix en tant que mère, lui a-t-il semblé, a été de se dévouer sans réserve, de courir autour de l'îlot de cuisine pour que la petite rebondisse joyeusement dans son porte-bébé, de chantonner et d'apaiser, de balancer, brinque-baller, secouer et laisser Iris lui aspirer tout le sang de son petit doigt, de sa vie. Ça a été de renoncer à voir ses amis parce que, si Iris n'avait pas toute l'attention de sa mère, elle était inconsolable. Mais même après une année quasi complète de coliques, l'enfant est resté sensible à une foule de choses. Pour elle, le monde, aussi merveilleux fut-il, était un endroit fondamentalement menaçant et elle avait besoin de Tamar en permanence pour atténuer le danger. Tamar y a-t-elle une part de responsabilité? Lui a-t-elle, d'une manière ou d'une autre, communiqué cette disposition défaitiste et anxieuse? C'est plus que probable. Et pourtant elle-même n'a pas été ce genre d'enfant. Sa mère a toujours affirmé qu'elle était facile, encore que, maintenant, Tamar pense que cela en dit sans doute plus long sur sa mère que sur elle-même. Élever Iris a été une entreprise qui, pendant longtemps, l'a épuisée et vidée de ses forces vitales, raison pour laquelle elle a hésité presque 5 ans avant d'avoir Rémi. Et même alors, elle pensait le faire uniquement pour qu'Iris ne fût pas seule. Pendant ces temps difficiles, apercevant son image dans le miroir et tentant de comprendre ce qu'elle était devenue, si elle retrouverait un jour ne serait-ce qu'un seul fragment d'elle-même, si ce qui faisait d'elle ce qu'elle était avait disparu à jamais, en échange d'un bébé, elle se surprenait à se demander quel était le secret de sa mère. Ce que sa mère connaissait ou possédait qui lui permettait de donner juste assez d'elle-même sans jamais se donner tout entière. Aujourd'hui, pour la première fois, Tamar se dit que sa mère détenait peut-être quelque chose bien à elle, quelque chose ou quelqu'un dont elle avait eu besoin, qu'elle s'était approprié et qui rendait possible ce don incessant d'elle-même. Et pourtant, même si elle avait eu cette vie secrète, même si elle avait découvert une façon bien à elle de recevoir, par des voies inconnues, une partie de l'amour qu'elle donnait, ça ne pouvait être avec lui, le mari disparu, pas plus qu'avec un homme de Nairobi ou de Shanghai. Les faits s'y opposaient. Un point c'est tout. Et quand bien même ce serait absurde,
admet finalement Shlomi au téléphone, deux soirs après le pique-nique de leur mère et du mari sur la plage près de Herzliya.
Quelle importance, si ça ne fait de mal à personne. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, déclare-t-il, s'en tenant à sa position d'unique exemple familial.
Le mari est inoffensif. Il n'a de visée ni sur l'argent de leur mère, ni sur son appartement. C'est un homme charmant et leur mère est contente. Elle vivait seule depuis la mort de leur père. Pourquoi la priver d'une compagnie et d'un peu de distraction en jouant les rigoristes?
Tamar est sur le point de répondre qu'elle aussi vit seule depuis son divorce, et il ne la voit tout de même pas amenant chez elle des hommes croisés par hasard.
Si elle pouvait réduire tous les maux que ses patients déversent dans son cabinet à une seule triste vérité, ce serait que, au bout du compte, chacun est seul et que plus tôt on accepte, on célèbre même, cette vérité, plus tôt on sort de la grande ombre de l'angoisse et de l'anxiété.
Une femme seule n'est pas une maladie exigeant l'aéroportage d'urgence d'un homme, a-t-elle envie d'argumenter. Au contraire.
Mais au moment où ces mots vont sortir de sa bouche, elle réalise que son frère a peut-être raison.
Peut-être est-elle vraiment sur la défensive.
Sa mère, qui a toujours été là pour répondre à ses appels, a maintenant d'autres préoccupations et peut-être que ça l'a un peu blessée.
Elles se sont retrouvées dans la même situation, non?
Deux femmes indépendantes sans mari, qui s'en tirent très bien, merci.
En un sens, cela n'a fait que resserrer le lien qui les unit.
Ni l'une ni l'autre n'ont trop souffert de l'absence d'un mari.
Leur situation était différente, bien sûr.
Ses parents à elle ont vécu ensemble 47 ans avant que la mort les sépare, alors que David et elle ont choisi de mettre un terme à leur mariage au bout de 10 seulement.
Tamar peut affirmer que l'idée d'un autre mari ne l'intéresse pas, qu'elle est post-conjungo, comme elle le dit parfois à ses amis, tandis que pour sa mère la question d'un autre mari est, a toujours été, discutable.
Mais même si sa mère a choisi de garder son mari, contrairement à elle, Tamar a toujours pensé qu'elles étaient quelque part implicitement d'accord concernant la paix et la tranquillité qu'entraîne le fait de ne pas en avoir, l'absence d'exigence, après avoir longtemps cherché à satisfaire un haut degré d'exigence.
Elle est reconnaissante à sa mère de ne pas répéter sans cesse, comme le font les mères d'autres femmes divorcées de sa connaissance, qu'elle devrait se trouver quelqu'un tant qu'elle est encore en beauté.
Et si Tamar tombe un jour sur un homme auquel elle souhaite se lier, c'est-à-dire pas le musicien électronique de 32 ans avec lequel elle a couché jusqu'au jour où elle en a eu assez de laver son linge ou qu'il est parti au Pérou, ni l'avocat à la personnalité charismatique, mais, finalement, au cœur ratatiné.
Sa mère sera sans doute heureuse pour elle.
Et elle, est-elle heureuse pour sa mère?
Elle appelle Cathy.
Peut-être que je me sens abandonnée, suggère-t-elle au moment où le train de banlieue repart de University Heights en direction de la ville.
« Ou juste un peu jalouse, » dit Cathy.
« Jalouse? D'un petit vieux hongrois?
Il fait de la confiture de mûres, et ils jouent aux échecs ensemble. »«
Du fait que ta mère ait retrouvé l'amour, » dit Cathy.
Tamar, le téléphone collé à l'oreille, regarde défiler les clôtures métalliques et les poteaux télégraphiques, tandis que le train fonce vers Harlem. L'amour. Il ne lui est pas encore venu à l'esprit qu'il s'agit peut-être de cela. Quelle est la probabilité, après tout, que quelque part dans les annales des services spéciaux, cette agence gouvernementale peu connue, un cupidon israélien s'occupe de réunir des veuves et des veufs avec davantage de succès que Tinder?
Mais non, fit-elle, impossible.
Elle vient de le rencontrer.
Ça sera sans doute fini dans une semaine.
Fais-moi confiance, ajoute-t-elle, même si Cathy n'en a rien à faire.
Mais le samedi suivant, en entrant dans la cuisine après sa douche, elle découvre Rémi, qui appelle toujours sa grand-mère par FaceTime le samedi matin, en train d'apprendre un tour de cartes avec le mari dont elle entend d'abord la voix, une voix de ténor grave à l'accent raffiné, perspicace et désabusée, macéré dans un bouillon de langue d'Europe centrale, un accent du vieux continent disparu de la circulation après 1945.
Elle se rapproche en veillant à rester hors du champ de la caméra.
elle voit son visage sur l'écran et, dans le coin supérieur gauche, le regard de Rémi, radieux derrière les cartes qu'il tient en main. Jusqu'à présent, le mari n'avait pas vraiment de réalité. Ce n'était qu'un vieillard en chapeau, totalement absurde dans son genre. Mais le voici, en train de parler à son fils, le séduisant comme il a séduit sa mère et Shlomi. Elle se montre, projetant son ombre sur le visage tout joyeux de Rémi. « Je suis Tamar, » fait-elle froidement. « La fille. » Le mari ne dit rien, mais ses yeux aux paupières lourdes, pleins d'intelligence, l'évaluent. Il ne correspond pas du tout à ce qu'elle imaginait. Il paraît en même temps plus sage et un peu plus jeune, plus vivant aussi. Il a des yeux bleus et une barbe blanche bien taillée, à laquelle elle ne s'attendait pas, qui laisse voir ses lèvres charnues, des lèvres qui ne dépareraient pas un visage d'enfant. Ils se considèrent l'un l'autre, sur le qui-vive, et pourtant, pense Tamar avec satisfaction, seul l'un des deux est un charognard. « Alors, quels sont vos projets ? » l'interroge-t-elle, tandis que Rémi observe leur visage sur l'écran. « Mes projets à quel sujet ? » demande le mari, surpris. Derrière lui, elle voit les fenêtres du séjour de sa mère et, sur le mur juste à droite de sa tête, une photo encadrée de Shlomi et elle aux âges d'Iris et de Rémi, elle avec les cheveux attachés en palmier avec un chouchou et Shlomi jouant à Karate Kid. « Votre mission à Netanya, c'est fini ou quoi ? Vous pouvez rester là-bas ou bien vous avez l'intention de vous installer à Tel Aviv ?» Elle voulait dire d'emménager chez notre mère, mais quelque chose dans les yeux du mari, comme un regard de fan, l'en dissuade au dernier moment. « Netanya, c'est fini, » dit-il simplement sans autre explication. Rémi, incapable de suivre le dialogue, lève les yeux vers sa mère. « On était au milieu d'un tour, » implore-t-il. « Tout à fait, » dit Tamar en levant un sourcil en direction du mari afin qu'il saisisse bien le sens de son propos. « Tout à fait. » Et, tournant les talons, elle quitte la cuisine d'un pas lourd pour aller faire le café.
Chapitre 4.
Mars, qui a commencé comme un lion et fini comme un mouton, a déposé en chemin le mari disparu et, à la mi-mai, le bébé de Shlomi voit le jour au Népal puisque la GPA demeure illégale en Israël pour les homosexuels. Deux semaines plus tard, Dan et lui rentrent en avion à Tel Aviv avec le nourrisson et, la troisième semaine de juin, le lendemain de la fin des cours pour Iris et Rémi, Tamar fait les valises comme d'habitude et revoit le planning d'arrosage des plantes avec la personne qui gardera la maison, un étudiant en troisième cycle à Columbia, qui était une femme l'an dernier, mais qui aujourd'hui est un homme. Depuis son divorce d'avec David, Tamar passe chaque année le mois de juillet à Tel Aviv avec les enfants et y reste souvent en août, tandis que eux prennent l'avion pour retrouver leur père là où il a décidé de passer ses vacances. L'étudiant de Columbia, Jessica les trois derniers étés, est maintenant Kevin, et comme Tamar n'était pas présente lors de la transformation, elle a l'impression, aussi aberrante et absurde soit-elle, que celle-ci s'est faite simplement, sans histoire, comme tout ce qu'a toujours fait Jessica. Les trois derniers étés, il, elle, a tout laissé dans un ordre parfait, plus que parfait même, et quand Tamar rentrait, fin août, elle retrouvait toujours une maison plus organisée et mieux tenue que celle qu'elle avait quittée, les petites réparations en attente qui s'étaient accumulées pendant l'année effectuées, toutes les ampoules électriques grillées, dûment remplacées, et si cela l'enchanta au début, le plaisir laissa bientôt place au sentiment qu'elle était un peu superflue, qu'elle n'était pas réellement utile à sa vie de New York, tout comme elle n'était pas réellement utile à sa vie de Tel Aviv ou ce qu'il en restait. Argument peut-être discutable, elle a ses patients, ses enfants, sa mère, ses amis, bref, beaucoup de gens qui ont besoin d'elle. Mais quel que soit son fondement, c'est le sentiment de quelqu'un dont les racines plongent dans des lieux différents et qui, par conséquent, ne peut s'implanter profondément nulle part. Dans l'avion qui l'emmène en Israël, Tamar est toujours exaltée à l'idée de rentrer enfin chez elle. Mais, une fois à terre, elle se rappelle pourquoi elle en est partie. Pour Iris et Rémi, les choses sont moins compliquées. Ils adorent rendre visite à leur grand-mère, ils adorent la plage où Tamar les emmène le soir, ils adorent la nourriture, les heures de coucher tardives, l'accès à un climat de liberté détendu et chaleureux, si différent de celui de New York. Et ils sont fous de joie à l'idée de rencontrer le bébé. Ils ont déjà vu leur cousin nouveau-né sur FaceTime, et Rémi a tenu à emporter sa petite valise à roulettes avec des livres et des jouets dont il ne se sert plus, afin de les transmettre au nourrisson de 5 semaines qui n'a pas encore de prénom, parce que Shlomi et Dan en sont encore à faire connaissance avec lui. Les enfants trépignent à l'idée de le prendre dans leurs bras, ce qu'ils expliquent pendant qu'on les fouille à la porte réservée au vol United de Newark à destination d'Israël. Iris, du haut de ses 15 ans, ce qui, dans les communautés du monde entier et de tout temps, fait d'elle quelqu'un en âge de procréer, se promet de manger le bébé tout cru, et Rémi va voir s'il sera le premier à le faire sourire. Dans la poche de la valise de Rémi, il y a aussi le paquet de cartes qui ne l'a pas quitté ces dernières semaines, prêt pour une séance d'entraînement ou un tour d'adresse. Mais ni Iris, ni Rémi, ayant vaguement perçu à travers un regard, un ton de voix ou une phrase laconique l'opinion de leur mère, ne soufflent mot de leur prochaine rencontre avec le mari. Quelques jours plus tôt, Tamar a entendu Rémi dire, dans la chambre d'Iris, que le mari avait collaboré avec Erdos et que, de ce fait, il y avait un nombre d'Erdos égal à 1. S'il avait collaboré avec quelqu'un qui avait collaboré avec Erdos, il aurait un nombre d'Erdos égal à 2, et s'il avait collaboré avec quelqu'un qui avait collaboré avec quelqu'un qui avait collaboré avec Erdos, ce serait égal à 3. Quelqu'un qui n'a jamais collaboré avec Erdos aurait un nombre d'Erdos égal à l'infini. Mais le mari avait un nombre égal à 1, et il allait l'emmener voir les Maccabiades. Note, variante juive des Jeux Olympiques. Fin de note. Qui est Erdos ? A demandé Iris. Un génie qui a écrit plus d'articles sur les mathématiques que n'importe qui. Il a résolu certains des problèmes les plus difficiles du monde et a vécu juste avec les affaires qu'il gardait dans une valise, l'a informé Rémi avec une touche d'orgueil dans la voix. Mais le mari ne vit plus du simple contenu d'une valise. Il a dépassé Erdos sur ce point, se dit Tamar qui s'est renseignée sur Wikipédia. Il a réfuté la théorie d'Erdos, selon laquelle les femmes capturent les hommes et en font des esclaves par le biais du mariage. Il s'est offert sous les traits d'un mari disparu et a ainsi trouvé une place pour sa valise, dans le meuble de rangement du sous-sol, après en avoir vidé le contenu et l'avoir rangé dans les tiroirs qui appartenaient autrefois à son père. Toute la semaine précédant leur départ, Tamar a attendu que sa mère évoque les conditions de leur cohabitation dans l'appartement. Ils ont toujours logé chez elle lors de leur séjour là-bas. Tamar dormant dans son ancienne chambre, Iris et Rémi partageant celle de Shlomi, et chacun passant à tour de rôle à la douche, qui n'a presque pas de pression. Comment sa mère a-t-elle pu s'imaginer que tout irait bien avec le mari en plus ? L'appartement qui n'a jamais pu loger que 4 personnes serait surpeuplé avec 5, surtout si l'un d'eux n'était pas de la famille. Peut-être sa mère espérait-elle que Tamar proposerait d'aller séjourner chez Shlomi et Dan, à Jaffa, dans un logement assez vaste pour la famille arabe étendue à l'intention de laquelle il a été construit. Mais Tamar n'a rien suggéré et sa mère n'a rien demandé, si bien qu'un taxi les emmène à présent rue Tchernichovski. Ilana attend dehors, et pendant que les enfants se jettent dans ses bras, Tamar a le temps d'enregistrer les discrets changements survenus chez sa mère. Ses cheveux, plus clairs de quelques tons, le cuivre désormais saupoudré d'or, ses collants en imprimé léopard, d'un goût encore plus risqué que d'habitude, et, sur la hanche, un sac banane en cuir matelassé décoré d'un faux logo Chanel. Fouillant dedans à la recherche de ses clés, sa mère les informe gaiement qu'elle n'a rien perdu depuis qu'elle s'en sert. Elle le garde sur elle, du lever au coucher, et s'en est maintenant fini du problème des affaires égarées. Tout ce qui en sort y rentre immédiatement. Quand elle dit cela en tapotant affectueusement la petite sacoche rebondie comme elle le ferait des fesses d'un bébé, Tamar devine, à la joie qu'elle perçoit dans la voix de sa mère, que l'idée vient du mari, que son ingéniosité et le fait qu'il a consacré sa grande intelligence à son petit problème à elle y sont pour autant dans le plaisir qu'elle éprouve. Grimpant l'escalier derrière la banane dansante ornée du double C doré, tandis que Rémi monte par le minuscule ascenseur avec les bagages, Tamar s'arme de courage en vue de la rencontre imminente. Mais lorsque sa mère ouvre la porte et que les enfants s'engouffrent à l'intérieur avec les valises, il n'y a personne. Tamar respire l'odeur familière de la maison et de l'enfance, et c'est seulement lorsque les premières notes épicées de la cuisine de sa mère, du vieil immeuble et de la poudre à laver israélienne se sont évaporées qu'elle découvre, sous-jacent, l'arôme musqué d'une eau de Cologne masculine. « Où est-il ? » demande-t-elle en reniflant. « Qui ? » demande à son tour sa mère, avec une crispation de la paupière très révélatrice, comme si le mari ratatiné qui a autrefois collaboré avec Erdos avait saisi son chapeau et s'était enfui par la fenêtre au moment où il passait la porte. Erdos, qui avait choisi comme épitaphe « J'ai fini de devenir encore plus stupide ».« Grand-mère !» crie Rémi en accourant dans la cuisine, le jeu de cartes à la main, juste à temps pour tirer sa mère d'embarras. « Tu veux que je te montre un tour ?» Mais le fait que le mari ait surgi du néant n'autorise pas sa mère à le renvoyer dans le néant chaque fois que ça l'arrange. Dans la salle de bain, Tamar découvre une brosse à dents aux poils aplatis dans le verre à côté de celui de sa mère. Ce soir-là, tous prennent un taxi pour Jaffra afin de rendre visite au nouveau-né. Il a des cheveux noirs, mais hormis cela, il ressemble trait pour trait au père de Shlomi et de Tamar. Des profondeurs de l'écharpe turquoise que Dan noue déjà d'une main experte, le nourrisson regarde paisiblement autour de lui, comme s'il avait déjà vu le monde de l'au-delà, et revenait observer, avec une compassion infinie, la merde terrestre dans laquelle ils se sont tous mis. Lorsqu'enfin on le déballe de son écharpe, qu'on se le passe de bras en bras, et que Tamar le pousse sur ses cuisses, il la gratifie de son regard nébuleux et béat. Chacun répète à l'envi combien il ressemble à Ellie, jusqu'à la petite fossette au menton. Mais un Ellie qui n'aboie pas, un Ellie sans griffes. Et Tamar ne peut s'empêcher de penser que ce que veulent vraiment lui dire sa mère et son frère, leur message implicite, pas vraiment subtil, c'est que son père observe tout cela de là où il est. Le mariage de Shlomi, son divorce à elle, l'arrivée du mari qui projette de le remplacer, avec une profonde et généreuse acceptation, avec le genre de tolérance qu'il ne possédait pas dans sa vie terrestre. Ce n'est pas un hasard si Shlomi a attendu la mort de son père pour épouser Dan, ni si Tamar s'est accrochée aussi longtemps à son mariage, jusqu'au jour où, moins d'un an après la disparition de son père, elle a enfin lâché prise. Les opinions tranchées d'Elie, leur ampleur et l'intensité avec laquelle il les exprimait, étaient telles qu'il était plus aisé de les prendre de biais que de s'opposer de front à sa véhémence. Ils l'avaient appris tous les deux très tôt de leur mère, qui laissait habituellement leur père fulminer et éclater, puis, une fois qu'il était endormi ou au travail, ou qu'il avait le dos tourné, leur donner ce qu'ils avaient demandé, ou trouver le moyen discret de leur apprendre comment se le procurer eux-mêmes. Le bébé s'agite brusquement et saisit le doigt de Tamar. « C'est vraiment incroyable, se dit-elle, de voir combien cet enfant sans nom, engendré grâce à la combinaison du sperme de Shlomi, de l'ovule de la sœur de Dan, de l'utérus et de la sueur d'une népalaise et d'une pincée de poussière magique, est le portrait craché de leur père. Quel a été le processus ? Mais malgré tout, elle n'y croit pas. Son forcené de père n'avait sûrement pas repris forme au Népal afin de leur envoyer un message charitable. Ellie aurait eu beaucoup à dire sur tout cela, et ça n'aurait pas été très joli. Ellie, le doyen du Shlumpadik, note, mot yiddish signifiant « négligé, mal fagoté », fin de note, israélien, qui portait des pantalons cargo trop larges et la même chemise jusqu'à ce qu'elle perdît ses boutons, qui ignorait tout de l'élégance des mathématiques, aurait écrasé le chapeau marron du mari d'une main en lui disant où il pouvait se mettre sa confiture et son Erdos. Dégageant son doigt, elle passe le bébé à Iris, qui le prend contre sa poitrine, comme si elle savait exactement que faire avec les bébés en ayant elle-même été un. Tamar va jusqu'à la baie vitrée et regarde la mer. Si elle était restée en Israël, elle aurait pu se réveiller chaque matin devant une vue semblable s'étendant jusqu'à l'horizon. Mais elle est partie à New York faire sa thèse, a épousé David et, à un certain moment, perdu son sens de l'ouverture à l'autre. Ce n'était pas plus la faute de David que la sienne. Elle s'est simplement jointe trop tard à la conversation qui aurait pu l'éclairer sur de nombreuses possibilités non envisagées. À écouter ses patients d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, la monogamie est une grosse baleine échouée à la carcasse pourrie, gonflée et puante et plus vite on s'en éloigne, mieux ça vaut. La vague de pluri-amour sur laquelle ils essaient tous de naviguer les portera-t-elle vraiment? Ou bien la jalousie de l'horreur de l'instabilité les feront-elles sombrer? Tamar ne saurait le dire. Prenons Shlomi. Il a surfé sur la crête de l'amour libre, il a aimé et a été aimé par tout Mykonos et Ibiza, mais pour finir il a recherché ce que chacun recherche depuis que les humains ont conscience d'eux-mêmes. Quel est ce vers? Non l'amour universel, mais être l'unique aimé. Elle se détourne de la fenêtre juste à temps pour découvrir Iris, qui tient son cousin à bout de bras et lui renifle les fesses. Elle a toujours essayé d'inculquer à sa fille le sentiment qu'elle n'a pas besoin de se marier, pas besoin de la stabilité de la vie conjugale pour ancrer son existence. Mais à la voir aujourd'hui, le nez dans le derrière du bébé, il paraît plus probable, Dafka, note, moyidish signifiant « c'est bien ma chance », fin de note, qu'Iris sera mariée à 25 ans et le restera jusqu'au jour où, entourée de ses petits-enfants, elle réchauffera dans ses mains les pieds froids de son mari mourant. Tamar pivote vers la fenêtre et contemple les vagues bleues qui déferlent de loin. À quoi sert de s'ouvrir aux autres si l'on n'est pas soi-même ouvert? À quoi sert une telle possibilité si on la ressent seulement comme une dilatation des bronches en descendant une route de campagne en voiture à la tombée de la nuit, ou quand, immobile dans les pièces de la maison, pendant que les enfants sont en garde partagée chez leur père, on prend soudain conscience d'un silence si pur qu'on en a la chair de poule. « J'ai trouvé !» s'écrie Iris. Tous se tournent vers elle. « Qu'est-ce que vous dites de Raphaël ?»« C'est un parfait Raphaël !» s'exclame-t-elle en tenant le bébé à bout de bras, afin que chacun puisse le voir sous ce nouveau jour. Les oncles se regardent perplexes. Shlomi penche toujours pour Mika, mais Dan préfère éviter la Bible et ses implications. Il regarde le bébé, les mains sur les hanches, l'écharpe vide en bandoulière, là où, 20 ans plus tôt, pendait une mitrailleuse. « Et Tom » propose-t-il. Sandor l'a suggéré l'autre jour, et je dois dire qu'il m'est resté en mémoire. C'est la première fois que Tamar entend prononcer le nom du mari. La première fois en fait que quelqu'un parle de lui depuis qu'elle est en Israël. Elle commençait à se demander, malgré la brosse à dents et l'odeur d'eau de Cologne, s'il ne l'avait pas inventé de toutes pièces dans le cadre d'une machination sophistiquée. « Est-ce qu'il n'a pas tout d'un Tom ?» demande Dan. « Il a plutôt tout d'un Eli, » insiste la mère de Tamar. « J'aime bien Tom, » dit Rémi. Iris retourne le bébé face à elle pour étudier ses traits une nouvelle fois. « Finalement, moi aussi, » convient-elle. L'expression sur le visage de Shlomi suggère qu'il est plutôt d'accord et tous les yeux se tournent vers Tamar, pleins d'attente. Mais ce qu'on lui demande en réalité, ce qu'elle est censée approuver, elle n'en sait rien. Alors, elle se tourne de nouveau vers la mère en soupirant, comme s'il y avait là-bas quelque chose venu de loin, qui exige qu'elle soit là pour le recevoir.
Chapitre 5.
Le lendemain, le bébé ne va pas bien. Ils ont pourtant tous utilisé le gel antibactérien dont Dan leur a aspergé les mains. Mais malgré cela, le bébé s'est réveillé avec le nez bouché et il a bientôt de la fièvre. Shlomi, qui refuse toujours de s'inquiéter, affirme que ce n'est qu'un rhume. Mais la fièvre monte, et quand le bébé jusque-là très calme se met à crier et peine à respirer au moment du biberon, Dan appelle un médecin. Il est maintenant 3 heures du matin, mais sa vieille amie pédiatre, Yuli, arrive au volant de sa voiture. Lorsqu'elle voit la respiration difficile du bébé et écoute le sifflement congestif de ses poumons, elle leur dit qu'il fait une infection des voies respiratoires et insiste pour les conduire à l'hôpital. Là, le bébé passe une radio des poumons, après quoi il est admis dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, installé dans un berceau métallique sous une tente à oxygène, relié à une perfusion intraveineuse et à un moniteur cardiaque, et équipé d'une minuscule pince au doigt qui émet des signaux lumineux permettant au médecin de contrôler la saturation de son sang en oxygène. Il a un virus respiratoire assez courant chez les adultes, mais potentiellement mortel chez un nourrisson de 5 semaines. Lorsque Tamar, Ilana et les enfants arrivent au Children's Center d'Ichilov, Shlomi est affolé. Il garde les yeux fixés sur les signes vitaux du bébé qui montent et descendent sur le moniteur. Affalé près du berceau, il caresse son enfant d'une main glissée sous la tente en plastique. Une infirmière vient enfoncer dans la gorge du bébé un long tube destiné à aspirer les mucosités et Shlomi regarde la scène, horrifié, croisant et recroisant les bras sur sa poitrine. Cette procédure devra se répéter toutes les 2 ou 3 heures dans les jours qui viennent. Le bébé n'a plus assez d'énergie pour crier, mais des larmes coulent au coin de ses yeux gris. Rémi éclate en sanglots et Tamar l'emmène au rez-de-chaussée sous prétexte d'acheter des cafés à Shlomi et à Dan. « Est-ce que Tom va guérir ?» demande Rémi en appuyant sa tête contre le ventre de sa mère. « Oui, » répond-elle, alors que rien ne l'autorise à l'affirmer. « Tom va se remettre. » Désormais, le bébé a un nom qui le rattache à la vie, qui s'oppose absolument au rien et nulle part qui rôde comme une ombre devant la porte de la chambre. Un nom que ses deux pères peuvent crier le deuxième jour, lorsque le code rouge résonne et que l'équipe d'urgence se précipite dans la chambre, prête à intuber le bébé, procédure qui ne le laissera plus respirer par lui-même. Un nom auquel l'équipe du code rouge, assemblée autour du berceau, peut se référer dans son dossier médical une fois que les chiffres du moniteur commencent à remonter peu à peu. Pour le moment, l'urgence est passée et sa fragile petite vie se maintient. C'est seulement le 3e jour que le mari fait son apparition à l'hôpital. Il porte un sac castron en plastique, d'où il sort des sandwichs maison emballés dans du papier alu pour tout le monde, plus une grande thermos de thé sucré. Le chapeau de feutre marron a fait place à un chapeau d'été en paille qu'il suspend à un crochet derrière la porte. Il n'était pas en ville et il est venu aussi vite qu'il a pu, explique-t-il. Il ne dit pas où il est allé. Peut-être les autres le savent-ils, ou peut-être n'y attache-t-il aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit là maintenant, avec eux. Rémi et Iris l'accueillent tout sourire en jetant un coup d'œil à leur mère, avec l'espoir, apparemment, qu'elle ne dira ni ne fera rien de malencontreux. Tamar le regarde prendre la main de sa mère. Il ne revendique pas sa place dans la dynamique de la famille, mais en même temps semble y être accepté avec bienveillance et gratitude. En l'observant, Tamar pense à quelque chose que Cathy disait parfois, à savoir qu'il n'est pas homme si difficile qu'il n'existe, quelque part, une femme mourant d'envie de prendre soin de lui. Si, fatiguée d'être une femme, elle décide un jour de jeter l'éponge, à supposer la chose possible sans épreuve extrême ni souffrance de toutes sortes, Tamar pourrait-elle, elle aussi, s'abandonner à ceux qui lui feraient monter un escalier jusqu'à une porte inconnue où l'attendrait une femme, peut-être une famille entière, prête à l'accueillir à bras ouverts, sans poser de questions. Ilana insiste pour que tout le monde fasse une petite pause et aille s'asseoir sous les arbres du terrain de jeu. Shlomi et Dan n'ont pas quitté l'hôpital depuis leur arrivée et un peu d'air et de soleil leur fera du bien. Tamar descend avec tout le monde mais, une fois dehors, elle se rend compte qu'elle a oublié son sac à main avec ses lunettes de soleil dedans. Remontée à l'étage, elle s'arrête à la porte de la chambre de Tom et, jetant un regard à l'intérieur, découvre le mari assis près du berceau dans un rayon de lumière tombé de la fenêtre qui parle tranquillement au bébé dans sa langue étrange. L'instant n'est pas logique, il existe en dehors de la raison, mais il n'a rien non plus d'inauthentique. Personne, rien, n'y a davantage droit que le nouveau-né, étranger comme tous les bébés arrivés de l'inconnu, et que le vieil étranger qui se met maintenant à lui chanter un air très doux. Le 5e jour, Tom passe enfin le cap. Il est hors de danger, et ce soir-là, on lui enlève la tente à oxygène. Quand Rémi abandonne le tour de cartes auquel il s'entraîne depuis un moment, et se lève pour aller voir dans le berceau ouvert, Tom le regarde et lui fait un grand sourire. Le matin du 6e jour, les médecins promettent qu'après une dernière radio des poumons, Tom pourra rentrer chez lui. Mais il le garde encore une nuit, si bien que c'est seulement le matin du 7e jour qu'il sort enfin, qu'on le rend à sa famille, de la même façon qu'il est entré. Mais on sait maintenant que les gens qui nous arrivent de nulle part et de rien ne sont jamais que ceci, un cadeau que nous recevons sans avoir eu l'idée de le demander, simplement émerveillés devant l'infinie prodigalité de la vie.